Ses lettres sont merveilles. Il ne manque à y inscrire aucun de ses titres. Nous, Gaston III, comte de Foix, vicomte de Béarn, vicomte de Lautrec, de Marsan et de Castillon. Et quoi donc encore? Ah oui, seigneur de Montesquieu et de Montpezat. Et puis, entendez comme cela sonne, viguier d'Andorre et de Capire. Et il signe seulement Phébus, avec son F et son E, bien sûr. Peut-être pour se distinguer même d'Apollon. Tout comme sur les châteaux et monuments qu'il construit ou embellit, on voit gravé en hautes lettres, Phébus l'a fait. Il y a de l'outrance, certes, en son personnage, mais il faut se rappeler qu'il n'a que 25 ans. Et pour son âge, il a déjà montré beaucoup d'habileté. De même qu'il a montré son courage, il fut des plus vaillants à Crécy. Il avait 15 ans. Ah, j'omets de vous dire, si vous ne le savez, il est petit-neveu de Robert d'Artois. Son grand-père épousa Jeanne d'Artois, la propre sœur de Robert, laquelle, aussitôt après son veuvage, a marqué tant d'appétit pour les hommes, mené vie si scandaleuse, causé tant d'embrouilles, et pourrait tant causer encore. Mais si, elle vit toujours. Un peu plus de 60 ans et une belle santé. Que son petit-fils, notre Phébus, a dû la cloîtrer dans une tour du château de Foix, où il l'a fait garder bien étroitement. Ah, c'est un sang lourd que celui des d'Artois. Et voilà l'homme dont La Forêt, l'archevêque chancelier, alors que tout devient contraire au roi Jean, obtient qu'il vienne rendre l'hommage. Oh, ne vous méprenez point, Phébus a bien réfléchi sa décision. Et il n'agit précisément que pour protéger l'indépendance de son petit Béarn. L'Aquitaine touchant à la Navarre, et lui-même touchant aux deux, leur alliance, à présent patente, ne lui sourit guère. Cela menace d'une grosse pesée, ces courtes frontières. Il aimerait bien se garantir du côté du Languedoc, où il a eu maille à partir avec le comte d'Armagnac, gouverneur du roi. Alors, rapprochons-nous de la France. Finissons-en de cette mésentente, et dans ce dessein, rendons l'hommage dû pour notre comté de Foix. Bien sûr, Phébus plaidera la libération de son beau-frère Navarre, on en est convenu, mais pour la forme seulement, comme si c'était le prétexte au rapprochement. Le jeu est fin. Phébus pourra toujours dire au Navarre « Je n'ai rendu l'hommage que dans l'intention de vous servir. » En une semaine, Gaston Phébus séduisit Paris. Il était arrivé avec une nombreuse escorte de gentilshommes, des serviteurs à foison, 20 chars pour transporter sa garde-robe et son mobilier, une meute splendide et une partie de sa ménagerie de bêtes fauves. Tout ce cortège s'étirait sur un quart de lieue. Le moindre varlet était splendidement vêtu, arborant la livrée de Béarn. Les chevaux étaient caparaçonnés de velours de soie comme les miens, lourdes dépenses à coup sûr, mais faites pour frapper les foules. Phébus y avait réussi. Les grands seigneurs se disputaient l'honneur de le recevoir. Tout ce qui était notoire dans la ville, gens de parlement, d'université, de finance et même gens d'église, prenaient quelque raison de le venir saluer dans l'hôtel que sa sœur Blanche, la reine veuve, lui avait ouvert pour le temps de son séjour. Les femmes voulaient le contempler, entendre sa voix, lui toucher la main. Lorsqu'il se déplaçait dans la ville, les badauds le reconnaissaient à sa chevelure d'or et s'agglutinaient aux portes des boutiques d'argentiers ou de drapiers dans lesquelles il entrait. On reconnaissait aussi l'écuyer qui l'accompagnait toujours, un géant du nom d'Ernoton d'Espagne, peut-être son demi-frère adultérin. De même qu'on reconnaissait les deux énormes chiens pyrénéens dont il se faisait suivre, tenus en laisse par un varlet. Sur le dos d'un des chiens, un petit singe se tenait assis. Un grand seigneur, inhabituel, plus fastueux que les plus fastueux, était dans la capitale, et chacun en parlait. Je vous compte cela par le menu, mais en ce mauvais juillet, nous étions sur l'escalier des drames, et chaque marche importe. Vous aurez à gouverner un gros comté, Archambault, et dans des temps, je gage bien, qui ne seront pas plus aisés que celui-ci. On ne se relève point dans quelques années de la chute où nous voilà. Gardez bien ceci en mémoire. Dès lors qu'un prince est médiocre de nature, ou bien affaibli par l'âge ou par la maladie, il ne peut plus maintenir l'unité de ses conseillers. Son entourage se partage, se divise, car chacun en vient à s'approprier les morceaux d'une autorité qui ne s'exerce plus ou s'exerce mal. Chacun parle au nom d'un maître qui ne commande plus. Chacun échafaude pour soi, l'œil sur l'avenir. Alors les coteries se forment, selon les affinités d'ambition ou de tempérament. Les rivalités s'exaspèrent, les loyaux se groupent d'un côté et de l'autre les traîtres, qui se croient loyaux à leur manière. Moi, j'appelle traîtres ceux qui trahissent l'intérêt supérieur du royaume. Souvent, c'est qu'ils sont incapables de l'apercevoir, ils ne voient que l'intérêt des personnes. Or, ce sont eux, hélas, qui généralement l'emportent. Autour du roi Jean, deux partis existaient, comme ils existent aujourd'hui autour du dauphin, puisque les mêmes hommes sont en place. D'un côté, le parti du chancelier Pierre de la Forêt, l'archevêque de Rouen, que seconde Enguerrand du Petit Cellier. Ce sont hommes que je tiens pour les plus avertis et les plus soucieux du bien du royaume. Et puis de l'autre, Nicolas Brac, Loris et surtout, surtout Simon de Bussy. Peut-être l'allez-vous voir à Metz. Défiez-vous toujours de lui et des gens qui lui ressemblent. Un homme à tête trop grande sur un corps trop court, déjà c'est mauvais signe. Redressé comme un coq, assez mal appris et violent dès qu'il cesse d'être taciturne, et plein d'un immense orgueil, mais dissimulé. Il savoure le pouvoir exercé dans l'ombre, et n'aime rien tant qu'humilier, sinon perdre, tous ceux qu'il voit prendre trop d'importance à la cour ou trop d'influence sur le prince. Il imagine que gouverner, c'est seulement ruser, mentir, échafauder des machines. Il n'a point de grande idée, seulement de médiocres desseins, toujours noirs, et qu'il poursuit avec beaucoup d'obstination. Petit clerc du roi Philippe, il a grimpé jusqu'où il est, premier président au Parlement et membre du Grand Conseil, en s'acquérant réputation de fidélité, parce qu'il est autoritaire et brutal. On a vu cet homme rendant la justice, obliger des plaideurs mécontents à s'agenouiller en plein prétoire pour lui demander pardon, ou bien faire exécuter d'un coup 23 bourgeois de Rouen. Mais il prononce aussi bien des acquittements arbitraires ou renvoie indéfiniment de graves affaires pour pouvoir tenir les gens à sa discrétion. Il sait ne pas négliger sa fortune, il a obtenu de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés l'octroi de la Porte Saint-Germain, aussitôt nommée Porte de Bussy, et par là il touche péage sur une bonne part de tout ce qui roule dans Paris. Dès lors que Laforêt avait négocié l'hommage de Phébus, Bussy y était opposé, et bien résolu à faire échouer l'accord. C'est lui qui alla au-devant du roi, venant de Breteuil, et lui glissa « Phébus vous nargue dans Paris par un grand étalage de richesses ». Phébus a reçu à deux reprises le prévôt Marcel. J'ai soupçon que Phébus complote, avec sa femme et la reine Blanche, l'évasion de Charles le Mauvais. Il faut exiger de Phébus l'hommage pour le Béarn. Phébus ne tient pas de bons propos sur vous. Prenez garde, en accueillant trop gracieusement Phébus, de blesser le comte d'Armagnac, dont vous avez grand besoin en Languedoc. Certes, le chancelier Laforêt est trop coulant avec les amis de vos ennemis. Et puis, a-t-on idée de s'appeler Phébus ? Et afin de mettre le roi vraiment en méchante humeur, il lui bailla une mauvaise nouvelle. Friquet de Fricamp s'était évadé du Châtelet, grâce à l'ingéniosité de deux de ses domestiques. Les Navarrais narguaient le pouvoir royal et retrouvaient un homme bien habile et bien dangereux. Cela fit qu'au souper qu'il offrit la veille de l'hommage, le roi Jean se montra rogue et agressif, appelant Phébus « Messire mon vassal » et lui demandant « Reste-t-il quelques hommes dans vos fiefs, après tous ceux qui vous escortent dans ma ville ?» Et encore il lui dit « J'aimerais que vos troupes n'entrassent plus dans les terres où commande Monseigneur d'Armagnac. » Fort surpris, car il était convenu avec Pierre de la Forêt qu'on regarderait ces incidents comme effacés, Phébus répliqua « Mes bannières, sire mon cousin, n'auraient pas eu à pénétrer en Armagnac si ce n'avait été pour y repousser celles qui venaient attaquer chez moi. » Mais dès lors que vous avez donné ordre que cessent les incursions des hommes qui sont à Monseigneur d'Armagnac, mes chevaliers se tiendront heureux sur leurs frontières. Sur quoi le roi enchaîna, je souhaiterais qu'ils se tinssent un peu plus près de moi. J'ai convoqué l'ost à Chartres pour marcher à l'anglais. Je compte que vous serez bien exact à le rejoindre avec les bannières de Foix et de Béarn. Les bannières de Foix, répondit Phébus, seront levées ainsi que Vassal le doit aussitôt que je vous aurai rendu l'hommage, sire mon cousin, et celles de Béarn suivront s'il me plaît. Pour un souper d'accordement, c'était réussi. L'archevêque chancelier, surpris et mécontent, s'employait vainement à mettre un peu de baume. Bussy montrait visage de bois, mais dans le fond de soi, il triomphait. Il se sentait le vrai maître. Du roi de Navarre, le nom ne fut même pas prononcé, bien que la reine Jeanne et la reine Blanche fussent présentes.